Les uns, c'est évidemment celui de la pénitence. Alors, soyons clairs tout de suite. Personne ne veut se confesser, c'est évident. Parce que il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons psychologiques. C'est jamais drôle d'aller avouer c'est plus de colère, c'est plus de faiblesse. En plus, c'est un prêtre. Oh là là, qu'est-ce qu'il a pensé de moi, surtout si vous connaissez. C'est épouvantable. Et j'ai envie de dire aux enfants, on a aussi quelque chose, quoi qu'ils le fassent avec de simplicité, je ne saurais trop vous recommander l'esprit d'enfance, justement par rapport à ces sacrements. Mais tout en disant, mais le prêtre, il ne pense rien, il n'est pas là pour penser, il est là pour pardonner. Il est là pour écouter, il est là pour pardonner plus exactement, pour exercer le pardon du bon Dieu. Mais bon, c'est vrai, je pense que le Christ a fait exprès d'instituer ce sacrement pour nous permettre justement de sortir de notre petit orgueil, de notre petit amour-propre et nous obliger à le laisser passer davantage. Et c'est justement, je crois, ce que révèle bien la liturgie du sacrement de pénitence. Car il y a une liturgie, là aussi, il y a une liturgie, ce que je vais essayer de vous détailler, à travers ce qu'on appelle d'ailleurs les actes du pénitent, la matière, la forme et l'intention du sacrement. Mais la première chose sur laquelle je voudrais insister, et ça va servir un peu d'introduction, si vous voulez, il est clair que tous les sacrements sont nés de la croix. Lorsque le centurion perce le cœur du Christ, donc après sa mort, après le grand cri qui pousse sur la croix, le longin perce donc le cœur du Christ d'un coup de lance, et saint Jean, qui est le témoin privilégié, dit, voilà, j'ai vu couler de l'eau et du sang. L'eau est en premier. Vous regarderez bien dans le texte, j'ai vu couler l'eau et le sang. Et celui qui a vu témoigne, il témoigne que ce qu'il dit est vrai, et il témoigne pour que vous aussi vous croyez. Donc il insiste, saint Jean, il insiste beaucoup. L'eau est évidemment le symbole des sacrements qui lavent. Il nettoie, il purifie. Et le sang versé est bien sûr l'origine de cette purification, c'est-à-dire le sacrifice du Christ sur la croix. Le fait que le corps et le sang soient séparés objectivement, matériellement, entraînant la mort du Christ. Et on comprend bien par là qu'il a réalisé complètement le sacrifice pour lequel il est venu. Ainsi, nous devons prendre en compte les deux aspects. C'est pourquoi j'ai mis tous les sacrements, quels qu'ils soient, dans l'ordre, quel ordre que vous les preniez, viennent bien, ou pour origine, directement la croix de Christ. Je dirais qu'ils sont l'expression pratique de la croix de Christ. Il faut toujours les considérer ainsi. Et au fond, on voit à travers cela, eh bien, l'expression de l'amour de Dieu pour nos âmes. On parlait tout à l'heure de ce que, comment dire, moyen que Dieu s'était choisi pour nous sauver. Donc je crois que la première manière d'honorer Dieu et de participer à sa liturgie, c'est tout simplement déjà de pratiquer le sacrement qu'il nous a laissé. Sinon c'est une espèce de mépris. De ne pas se confesser régulièrement, par exemple, confine un peu au mépris. Christ est mort pour ça quand même. Et dans sa mort, il apporte tout son amour. Donc, que ce soit la confession, que ce soit l'Eucharistie, que ce soit n'importe quel sacrement, automatiquement, on montre par la pratique des sacrements qu'on répond à cet amour du Christ, à cet amour de la croix. Et nous, les prêtres, on a souvent ce genre de problème, dans la mesure où on nous appelle, par exemple, c'est souvent ce qui arrive, hélas, c'est pas moins maintenant, mais je vois pas le jeune prêtre, on appelle pour donner l'extrême onction. Ah oui, mais la personne était déjà morte. Ouais. Et alors, on dit, bah, attendez, on dit, ah oui, on avait peur, nous, que ça la folle. Ah ben, il s'est réussi. Ah, et maintenant, elle n'a plus raison de s'appeler, la peau. Il manquait juste en les essentiels pour aller devant Dieu. Et certes, beaucoup de gens, je me rappelle l'histoire, quand j'étais, de quelques jours de service militaire que j'ai fait, 15 jours. Ça a été vite réglé. Je rentre en train. Je monte dans un compartiment, arrive une dame. Et manifestement, ça n'allait pas très bien. Si les choses sont exactes, avec son gendre et sa fille, ou l'inverse, peu importe. Et lui, je crois que c'est le gendre qui me voit dans le compartiment. Il dit, on va faire. Belle maman, vous serez bien là, vous serez en bonne compagnie. Réponse, non, ça porte malheur. La réaction des gens, cette réaction-là, je la retrouve par rapport au sacrement. C'est quand même beaucoup plus genre, moi. Il dit, mon Dieu, peu embêtant. Il nous a laissé ces sacrements. Et si vous voyez-vous, c'est ce sur quoi je voulais assister auprès de vous, commençant sur cette pénitence, au fond, je voudrais insister sur ceci, la miséricorde et la justice de Dieu. Ou la justice et la miséricorde de Dieu, peu importe l'ordre. Mais il y a un lien extrêmement étroit et complémentaire entre les deux. Pourquoi? Parce que ce que veut Dieu, c'est notre sainteté, c'est-à-dire notre purification absolue, qu'il puisse avoir l'occupation totale de notre âme. Que tout lui soit donné. Et humainement et divinement. C'est ça la sainteté. C'est-à-dire que trop souvent, si vous voulez, on voit la sainteté à travers l'aspect extérieur, alors le saint parfait qui fait des miracles, c'est pas ça. La sainteté, c'est un état d'abord. C'est un état. Un état où Dieu est réellement, totalement présent dans notre âme, et qu'il dirige complètement ce que nous sommes. Intelligence, volonté, sensibilité, on retrouve l'ordre d'avant le péché originel. C'est ça, c'est avant tout un état, je le répète. Et les miracles des saints sont là pour prouver la sainteté de ces gens quand l'Église veut les canoniser. C'est pour ça qu'elle demande des miracles. Mais tout saint ne fait pas forcément des miracles. Vous avez dans vos propres familles des ancêtres, j'espère bien qu'ils sont au ciel, et vous l'espérez aussi. On ne le sait pas. D'accord, donc on prie pour eux. Mais s'ils sont au ciel, c'est qu'ils sont dans l'état de sainteté. Puisque sans cet état, on ne peut pas voir Dieu. Or, qui donne cet état de sainteté? C'est Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas l'acquérir. Dieu nous dépasse infiniment. Donc je dois faire tous les efforts que je veux personnellement, tout seul, humainement, je veux dire. Je n'arriverai jamais à être à égalité avec Dieu. C'est impossible. Et c'est souvent l'exemple que je prenais avec les enfants en catéchisme pour leur expliquer ça. Et voilà, les enfants, vous avez un petit frère, une petite sœur, chacun sait, et je sais quelque chose, puisque moi j'étais le petit frère. Je demanderai à Madame du Parc ce qu'elle en pense. Hein, le petit frère, c'est l'antiquineur. Surtout, c'est le petit dernier, donc évidemment, il est mal éduqué. Hein, c'est clair, il n'a pas été éduqué comme nous, on était neuf, on avait huit qui s'occupaient de moi. En plus des parents, vous imaginez. Donc le petit frère, c'est forcément, la petite soeur, c'est forcément quelqu'un d'ennuyeux. Vos enfants, s'ils vous embêtent trop, ils perdent les claques et un petit coup, et puis c'est fini. Ils rafleraient dans les jupes de maman et on n'en parlera plus. Si c'est votre grand frère ou votre grande soeur, entre garçons, vous battez tous les deux, entre les filles, vous arrachez les cheveux, je sais pas. Bon, finalement, les enfants, imaginez, vous donnez une claque à vos parents. Oh ben non, monsieur l'abbé. Eh ben j'ai dit, ben voilà, pourtant c'est le même geste. Et une claque au bon Dieu. Oh, la claque, c'est le péché. Comment pour réparer? Il faut être capable de réparer. Est-ce que vous avez les moyens, les enfants, de donner la réparation qui permette qu'ils soient à l'égalité avec Dieu? Ben non. Et là, c'est pour ça que Jésus est venu. Et si Jésus est venu, c'est pour nous apporter par miséricorde les moyens de sa justice. La justice étant la sainteté, Dieu, le Christ, sachant bien qu'évidemment nous n'avons pas nos moyens propres pour parvenir à cette sainteté, je veux dire à cet état de sainteté, et bien par miséricorde, en mourant sur la croix, nous donne les moyens de sa miséricorde, c'est-à-dire les sacrements. Et ainsi, les sacrements sont bien les moyens de la miséricorde divine pour parvenir à la sainteté. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'opposition entre Dieu juste et Dieu miséricordieux. Non, c'est le même Dieu, mais qui se manifeste, il a une exigence de justice. Car pour être en face de Dieu, eh bien, il y a un état qu'il faut posséder. Mais cet état, il faut avoir l'humilité d'aller le chercher auprès de lui, puisque sa miséricorde nous le propose. C'est pour ça que l'Église a toujours insisté sur la pratique des sacrements. C'est pour ça que Saint Pie X a instauré la communion fréquente, on oublie trop souvent, et la communion des petits-enfants, dès l'instant où ça va faire la différence entre le pain et l'Eucharistie. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la miséricorde de Dieu puisse tout de suite s'exercer sur l'âme de l'enfant et lui permettre ainsi de parvenir pas à pas à la sainteté. C'est la même chose pour nous. Donc j'espère que l'explication que je vous donne là vous permettra de mieux réaliser l'importance de la confession pour venir finir par l'aimer, la confession. Parce que c'est ça aussi. C'est pas tout de dire, bon, allez, je vais me confesser. Non, pour partir en hurlant, chic, je vais me confesser. C'est ça que ça veut dire qu'à ce moment-là, on a l'amour de Dieu. On a l'amour de Dieu. Vous voyez ? Et même pour la confession fréquente, oui, c'est très important. C'est le fondement même du sacrement. Hein, l'application de la miséricorde de Dieu pour correspondre à sa justice. Si vraiment j'aime Dieu, je veux être dans sa justice. Et donc, je prends le moyen qu'il m'a donné, qui est aussi de répondre à cet amour. Hein, le Christ me dit dans son croix, voilà, je te donne ça. Je t'aime pour l'Eucharistie, mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Je l'aime pour tous les sacrements. Donc, voilà, première chose. Et je pense, pour bien comprendre pourquoi il faut correspondre à cette demande de Dieu, c'est le Sacré-Cœur. C'est le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a emporté les hommes et qui n'en reçoit que des injures, des insultes, etc. C'était surtout l'oubli que le Christ reprochait. L'oubli de ce qu'il nous apportait. Et pourquoi d'ailleurs ? Quand on regarde historiquement les apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite, pourquoi ? Parce qu'il y avait le jansénisme qui éloignait les âmes de la miséricorde de Dieu, sous prétexte de correspondre à certains nouveaux catharismes, hein, jansénisme d'une certaine manière. Et donc il fallait que l'âme soit absolument parfaite pour aller voir Dieu. Ben oui, donc, si on ne prend pas les moyens, c'est impossible. Dans ce sens, le jansénisme est la pire hérésie, une épouvante. Or, que fait Dieu ? Il apporte. Juste à ce moment-là, des héros, mon cœur miséricordieux. Je trouve ça extraordinaire. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit bien que toutes les grandes dévotions se sont développées au moment où il y en avait le plus besoin. Au XIIIe siècle, la dévotion à l'Eucharistie, le début des processions du Saint-Sacrement, pourquoi ? Parce que dès le XIVe, il y avait déjà des attaques par les hussites contre la présence réelle. Avant, après Luther, Calvin, etc., le protestantisme, eh ben, Dieu prévoit, Dieu donne toujours. Donc on serait un peu bête de ne pas en profiter. Alors justement, quand on regarde un peu la liturgie de la confession, il y a une liturgie. Et elle nous permet justement de lui rentrer dans l'esprit de... Quel est l'esprit fondamental de la pénitence, traduit par cette liturgie, de se mettre à genoux, le rôle du prêtre, le rôle de ce qu'on appelle les actes du pénitent sur lesquels je vais revenir, fondamentalement, je vous le disais tout à l'heure, c'est d'abord la reconnaissance de notre faiblesse. Le fait que, voilà, nous venons déposer au pied du prêtre qui est l'instrument de Dieu, qui est le serviteur de Dieu, l'instrument pour être plus précis, nous venons déposer tranquillement, et je dirais avec beaucoup de foi, ce qui empêche cet état de sainteté. Donc la première démarche, c'est ce qu'on appelle évidemment la contrition. Qui prend acte, je dirais, à la fin du sacrement lui-même, mais qui est la condition fondamentale pour que nous rentrions vraiment dans le lieu de la miséricorde. Et là, je vais vous prendre deux exemples de l'Évangile que je trouve extraordinaires. Le premier, même trois. Le premier, l'enfant prodigue. Nous en avons lu le texte il y a deux jours. C'était lundi. Non, du samedi, pas, c'est samedi dernier. L'enfant prodigue. C'est extraordinaire, surtout la finale. C'est fantastique, parce que c'est une très grande leçon. Bien sûr, on se dit, ah ben oui, mais c'est des pharisiens, ils prennent ça. Oui, mais nous. Et quand le gamin revient, donc, elle a vraiment la contrition. Vous remarquerez d'ailleurs sa contrition vient du fait qu'il n'a plus rien à manger. Comme quoi, le bon Dieu reste très naturel. Il n'est pas fou. Mais ça fait réfléchir quand même. Hein. Bon, donc il revient vers son père. Que fait le père ? Il est là, il l'attend. Il l'attend depuis des jours et des jours, des mois et des mois, des années peut-être. Il l'attend. Il sait qu'il va revenir. Il a confiance. Dieu. Dieu sait que notre âme va revenir. Bon, c'est la scène, je ne vais pas vous la reprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand le frère aîné rentre. Il est vexé comme un pouf. Parce que lui, il est resté. Donc, il a dit, viens. Lui, il a travaillé, type doublement bien. Il n'a jamais rien demandé à son père, type triplement bien. Et voilà le gamin qui arrive, hein, qui a fait tout et n'importe quoi, qui a dispatché toute la fortune qui lui a été donnée, et lui, il a droit à un banquet, à la musique, tout le monde est content, etc. Qu'est-ce qu'il fait ? Il réagit humainement. Il ne comprend pas que l'amour est la miséricorde de Dieu. Mais cet amour, cette miséricorde de Dieu chez l'enfant prodigue, elles ont été réalisées. Pourquoi ? Parce qu'il a correspondu à la justice par la contrition. C'est lui qui est revenu, c'est pas le Père qui est allé le chercher, vous remarquez. Il l'attendait, mais c'est le Fils qui est revenu. Donc il a exercé la contrition, donc il correspond à l'injustice. À ce moment-là, la miséricorde de Dieu est plus grande que tous les péchés commis, et donc elle s'exerce immédiatement. Et c'est ce que le Père dit à son fils aîné immédiatement. Tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi, il n'y a pas de problème. Mais il fallait bien que je me réjouisse, il fallait bien que j'exerce la miséricorde. Et à la limite, j'ai l'impression que c'est un petit reproche quoi, du Père, dire si je pouvais exercer la miséricorde avec toi aussi, t'en aurais peut-être un petit peu besoin. Donc c'est pour nous ça, c'est quand on se pense, bien sûr, c'est pour les parisiens dans le contexte, c'est clair. Hein, mais c'est aussi pour nous, quand on pense que. Que Madame Machin aille se confesser, c'est normal. Hein. Moi, non, j'en ai pas besoin. Donc la dernière. Première chose. Deuxième exemple de bon larron. Moi, ça m'a toujours extraordinairement plu. Hein, ce bon larron, enfin, qui avant n'est pas un bon larron, vous le savez, un criminel. Comme il correspond à la justice, comment oses-tu insulter cet homme qui n'a rien fait ? Nous, c'est normal qu'on soit mis en croix. Nous méritons, en raison de ce que nous avons fait, des crimes que nous avons commis. Et lui, c'est injuste. Contrition. Or, vous remarquerez que cette contrition passe par quoi ? C'est injuste. Il reconnaît la divinité. Comment ? En disant, Christ, Seigneur, quand vous serez dans votre paradis, ne m'oubliez pas. Et c'est là où le Christ lui dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. La miséricorde peut s'exercer parce qu'il y a cette reconnaissance de la faiblesse, de l'erreur, du crime, et elle est manifeste, elle est montrée. Ça fait partie de la liturgie de la confession. Luther voulait qu'on se confesse comme ça. Non. Il y a une liturgie à respecter. Comme je vous disais tout à l'heure, le geste exprime notre véritable contrition. C'est bien pourquoi l'Église a prévu cette petite liturgie, je l'admets, mais c'est une liturgie quand même. Et donc, le bon larron, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et enfin, le dernier exemple, ben c'est Saint-Pierre lui-même. Si vous voulez, trois fois il relit, et tout de suite il pleure. Et savez-vous pourquoi il pleure ? Relisez le texte sur le fond de Saint-Matthieu. Là, je suis bien sûr, moi, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais je crois que c'est Saint-Matthieu. Saint-Matthieu dit, le Christ, à cet instant, le coq chante, Saint-Pierre a relié trois fois, le Christ sortit, se retourna et regarda Pierre. Et Pierre pleura. Il y a le regard du Christ, ça a dû être. Je vous l'avoue, à chaque fois, j'en ai des frémissements à chaque fois que je lis ce texte. Le Christ qui se retourne vers moi, regarde. Vous imaginez le regard du Christ. Il est des êtres dont on voit dans le regard toute la sainteté, ou toute la malignité, ou tout ce que vous voudrez, l'intelligence. Le regard du Christ, c'est le regard de Dieu. Je me mets à la place de Saint-Pierre, il a dû être pris au fond de lui-même, d'où immédiatement ce regret correspond à la justice et la miséricorde du Christ qui lui a déjà pardonné et qui se manifestera après la résurrection par la confirmation Pierre même plus. Donc, on voit bien quelle doit être notre attitude. Il faut le revêtir. Bon, évidemment, à l'inverse, on pense tout de suite à Judas, qui est enfermé dans son orgueil, il va se pendre. Parce qu'il pense qu'il ne peut pas être pardonné. On doit se dire que si Judas était dans le Christ, pendant sa passion, s'était mis à ses genoux à lui demander pardonner, il aurait demandé pardon, montrant vraiment une contrition, il aurait été pardonné. Ce qui est pas sûr, c'est que les autres apôtres aient eu la miséricorde du Christ. Enfin, ça, bon, il aurait peut-être réglé son sort quand même. Mais, voilà, Judas s'est enfermé dans l'orgueil. Il s'est enfermé dans l'orgueil, non, mon crime est impardonnable, alors il croit se libérer en rebalançant les 30 pièces, les talents d'argent, mais tout de suite, ça joue à l'autre, et il alla se pendre. Il n'a rien compris, il n'est pas capable d'avoir cette humilité vraie de reconnaître ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi, vous voyez, je voudrais, là aussi, c'est le deuxième aspect, que cette liturgie de la pénitence est ressortie. Il y a aussi le fait de la véritable humilité. Qu'est-ce que la véritable humilité ? C'est pas de se détruire soi-même. C'est pas ça. D'abord, de reconnaître ce que l'on est. Or, à partir de l'instant où on est quelqu'un, c'est qu'on est positif. Et dans la reconnaissance de cet être, il faut aller jusqu'au bout. Je suis un être aimé de Dieu. C'est ça qui est premier. Premier. Parce que la fausse humilité consiste à se détruire. Mais pourquoi ? Pour recevoir en contrepartie une flatterie, on va dire, vous dire, mais non, mais non. Et le raconte tout le temps, et je le fais moins maintenant parce que l'occasion s'en trouve moins, mais je me rappelle au début les gens qui me disaient « Oh non, je ne suis rien ». Vous êtes un peu impressionné, quoi. Mais si, vous voyez, vous avez fait ça, vous avez fait ci. Bien sûr, non, je l'avais, ne me flattez pas. Encore. À la fin, j'ai compris. Quand on me disait ça, j'ai dit, ouais, vous êtes rien. Vous êtes nul. Plus que vous ne le pensez. Non, enfin. Et vous demandez une confirmation, je vous la donne, moi. Vous voulez être rien, ben soyez rien. C'est pas ça, l'humilité. C'est être rien devant Dieu. C'est-à-dire, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est tout simplement recevoir de Dieu ce qui nous est nécessaire pour être véritablement, pour un catholique, pour un chrétien, être, c'est être avec Dieu. Si Dieu n'est pas là, évidemment, il y a un manque d'être évident, total. Mais être avec Dieu, je correspond à ma finalité, je construis, je laisse Dieu construire ma finalité à l'intérieur de moi. Et en ce sens, la confession est ce qui permet justement cette construction de l'être réel qui est d'être en lien avec son Créateur, puisque, comme je vous rappelle ce que disait Saint Jean, il nous a aimé le premier. Donc, oui, à l'aide de ces quelques éléments, on comprend mieux la liturgie de la pénitence que l'Église nous donne. Effectivement, par exemple, de se mettre à genoux. C'est un acte de vraie humilité. On ne se met pas à genoux devant le prêtre, on se met à genoux devant Dieu. C'est, rappelez-vous, l'épisode du pharisien et du publicain. Mon Dieu, je suis génial, je donne, j'obéis à vos commandements, je suis quelqu'un de très bien, etc. Debout. L'évangile le dit bien. Le pharisien se tenait debout en haut du temple. Et le publicain, au fond, à un genou, complètement écroulé. Mon Dieu, je ne suis qu'un pauvre homme, mais mon Dieu, pardonnez-moi. Je vous le dis. Celui-ci, le pharisien, il n'est pas sorti pardonné, mais le publicain, lui, oui, parce qu'il s'est incliné devant Dieu, c'est-à-dire que l'inclinaison physique de son être a traduit son inclinaison morale, spirituelle. Il s'est servi de cette inclinaison pour dire, vous voyez, vraiment, je ne suis pas grand-chose, je ne suis qu'un pauvre homme, mais vous pouvez tout pour moi. Ça me fait beaucoup rire, si vous voulez, cette distinction entre être à genoux ou debout. Parce que première fois, dans les années 70, on nous a dit qu'il fallait être debout, nous étions des chrétiens adultes. Et bien moi, je ne suis pas un chrétien adulte, je tiens à vous le dire tout de suite. D'abord parce que Jésus a dit, si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Donc je ne veux pas être adulte. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est un refus absolu. Je ne veux pas être adulte, vous êtes comme des enfants. Non, je ne veux pas grandir. Mais je n'ai pas envie de grandir comme ça. Il faut rester petit enfant. Et l'attitude de petit enfant, c'est la confiance. C'est sur les genoux de sa mère. C'est un genou au pied de sa maman en train d'apprendre le Je vous salue Marie, Don Bosco, Saint Dominique Savio, etc. C'est cette attitude que l'on manifeste en se mettant à genoux d'un professionnel. C'est non seulement une attitude de contrition, je dirais, mais c'est une attitude aussi de confiance totale en Dieu. Si je me mets debout, ça veut dire que je veux traiter à égalité avec vous. Si je m'assieds, ça veut dire que c'est le bon copain. Si je me mets à genoux, je reconnais sa puissance, je reconnais qu'il peut, non seulement tout, mais qu'il peut me pardonner. Et c'est bien ça que je viens chercher le plus humblement possible, en sachant bien que je ne peux pas y répondre par moi-même. Premier élément, vous voyez, ce qu'on appelle les actes du pénitent, c'est, encore une fois, le regret de ses fautes, la contrition. Parfaite, imparfaite, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails de la morale, ça n'est pas le lieu ici. Mais, voilà, cette contrition. Et cette contrition se manifeste absolument par la confession elle-même. C'est pour ça que l'Église exige la confession. La confession permet à l'âme de se mettre en face d'elle-même. Pourrais-je vous dire quand même que, pour que la confession soit vraiment bien, il faut l'accompagner de l'examen de conscience. Parce qu'on a tendance à pas très bien se connaître soi-même. Attention, il ne faut pas que l'examen de conscience tourne à la catastrophe. Ce n'est pas seconde par seconde qu'on vous demande de dire les choses. Mais quand même, dans les grandes lignes, ça aide. Pour que la confession des fautes, l'Église exige que soit confessée de toute façon tous les péchés mortels, hein, ainsi que le nombre de fois qu'ils ont été commis, et qu'elle demande aussi que quand même le péché véniel soit annoncé. Mais l'idée de l'Église, vous voyez, à travers l'idée de l'Église, c'est bien sûr la volonté de Dieu, c'est que voilà, l'âme se dévoile vraiment. Dieu, soit Dieu n'a pas besoin de la confession, il nous connaît, hein. Il sait. Mais justement, il sait que par la confession auriculaire, par le fait d'avouer, de dire les fautes, eh bien, ça entraîne l'âme à encore plus de confiance en lui. Pourquoi ? Les choses les plus épouvantables, nous ne les disons qu'à quelques personnes, pas grand monde. Quand on a fait une grosse bêtise, on va le dire à sa maman, à son enfant. Un adulte va le dire peut-être à un bon ami ou à quelqu'un de confiance. Je crois que j'ai fait des énormes gueules. Bon, ça n'arrive pas à garder tout ça pour soi. C'est pas possible. Il faut qu'on l'avoue. Et Dieu ainsi, c'est pas. J'aime pas l'expression Dieu est de l'ami. Non, c'est beaucoup plus le Père. C'est le Père auquel on va se confier dans cette attitude justement de confesser le péché, de dire. Et sans ni s'en rajouter, ni sans en retenir, mais vraiment dans cet acte, cet abandon, cette confiance absolue, voilà mon Père, hein, comme dit l'enfant prodigue, j'ai péché contre Dieu et contre vous. Eh bien mon Dieu, j'ai péché contre vous, en péchant d'ailleurs contre les autres bien souvent. Et voilà, je viens vous donner mon âme, parce que je sais qu'elle nous appartient, et que je sais que dans cet aveu que je fais, non seulement mon âme va retrouver sa pureté, mais elle va, construire à nouveau. Et ça, oui, je voudrais beaucoup y insister. On le voit bien dans cette liturgie de la confession, encore une fois, c'est que la confession, certes, ôte les péchés, c'est même son objet principal, mais en même temps, elle donne une grâce toute particulière qui permet à l'âme de laisser Dieu construire davantage. C'est ça qu'on oublie trop souvent. Il y a cette grâce de Dieu à travers la confession. Je vous disais tout à l'heure, Dieu a une connaissance de notre âme personnelle, totalement personnel, totalement donné à lui, et une connaissance parfaite. Donc, effectivement, je répète, il n'a pas forcément, enfin, en soi, il n'a pas besoin de la confession. S'il la veut, c'est pour nous faire comprendre que sa grâce va être beaucoup plus forte que nos péchés, beaucoup plus forte que la tentation. Et que cette grâce, elle va rentrer dans notre âme par le sacrement de confession, par la peine l'absolution que va donner le prêtre, que Dieu donne en fait par le ministère du prêtre. Donc il y a cet aspect de laisser Dieu construire dans notre âme par la confession une maison. Et ce que disent tous les grands confesseurs, je pense à saint Philippe Néri, à tous ceux qui ont prêché là-dessus, qui ont écrit sur la confession, ils disent bien au fur et à mesure l'âme prend l'habitude de la confession et vit vraiment cette liturgie à fond, non seulement on se dirait, bon bah, voilà, plus de la confession parce qu'elle ne va plus faire de péché, c'est mieux que cela. Elle prend tellement conscience de la grandeur de Dieu qu'elle prend encore plus conscience de sa petitesse et que donc elle a toujours quelque chose à accuser. Parce qu'elle se rend compte qu'elle ne correspond pas assez à la grâce de Dieu. Et ça, c'est tous les grands saints qui l'ont vécu. Tous les grands saints ont vécu ainsi et ont acquis cette conscience de l'infinie perfection de Dieu. C'est ça que Dieu veut, parce que à partir de l'instant où nous avons connaissance de son infinie perfection, ben nous comprenons que notre âme est construite pour coller à cette infinie perfection, pour participer à cette infinie perfection. Donc la confession nous donne à la fois une connaissance de Dieu de plus en plus parfaite, mais en même temps une connaissance de nous-mêmes de plus en plus parfaite sous ce regard de Dieu. Et là, on est dans la véritable humilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas cacher les talents que Dieu nous a donnés. La confession, c'est le contraire. C'est au contraire d'exercer ces talents que Dieu nous a donnés. Rappelez-vous la parabole des talents, là aussi. Celui qui n'a qu'un seul talent et qui, par frousse, va le planter dans la terre, on lui prend son talent. J'aime beaucoup la fin de la parabole, c'est dommage dans la liturgie de l'Église, qu'on lit, vous savez, la parabole des talents, on la lit, et si les souvenirs sont exacts, de la messe des confesseurs. Mais il n'y a que la première partie. Celui qui a 5 talents en 10, c'est bien pour le serviteur. Celui qui en a 2, on en fait 4, c'est bien pour le serviteur, puis ça s'arrête là. Je ne veux pas me mêler de la liturgie de l'Église. Mais c'est un peu dommage, parce que la fin est géniale. Voilà, c'est bon, bref, j'avais un talent, je sais que tu vas mettre dur et juste, je l'ai planqué, je te le rapporte, c'est tout content, je l'ai tout produit. Hein. Mauvais serviteur, tu aurais pu le faire fructifier, tu n'as pas fait fructifier. Prenez-lui son talent et donnez-le à celui qui en a déjà 10. Le serviteur fut choqué, shocking. Maître, il en a déjà 10, je vous le dis. À celui qui a, on donnera encore. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Donc vous réfléchissez à la phrase. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que plus on laisse la grâce entrer, plus, comme dit le Christ à la Samaritaine, elle devient une source vivifiante, elle nous purifie de plus en plus. Donc il faut reconnaître nos talents, non pas au sens où c'est nous qui les aurions, mais c'est Dieu qui nous les a donnés. Que nous sommes donc, nous devons rendre compte à Dieu de l'utilisation des talents qu'il nous a donnés. Ça, c'est la véritable humilité. Tandis que si je m'enferme dans la contemplation de moi-même, en niant les talents que Dieu m'a donnés, non seulement je me connais très mal moi-même, non seulement je m'aperçois que je n'ai pas beaucoup de talents, mais en plus, le bon Dieu, plus égard pour moi, je vois que ces talents, ils seront retirés. Je ne pourrais même pas les utiliser. C'est Dieu qui nous fait utiliser les talents. Et ça, oui, ça fait partie de cet esprit de la liturgie de la confession, où, encore une fois, par l'aveu des fautes, on dit oui. Ces fautes m'ont empêché de faire fructifier tous les talents que vous m'avez donnés. Donc, je voudrais reprendre, je voudrais recommencer. Et c'est pourquoi il y a, alors, dans la confession, le regret, la confession, il y a la dernière partie de cette liturgie qui est l'absolution. L'absolution donnée par le prêtre. Bon, le petit mot du prêtre, comme le sermon, ça ne fait pas partie de la liturgie. Bon, je vous ai recommandé de dire un petit mot quand même, au moins montrer qu'on a prêté intérêt à votre confession. Bon, ceci étant, ce n'est pas une obligation, mais rassurez-vous, nous disons, mais l'essentiel, il y a le sacrement qui vient, l'absolution. Et lorsque le prêtre dit « Ego et moi », en raison des facultés qui m'ont été données par mon ordination, je t'absous de tes péchés, pensez bien que là, c'est le Christ. S'il est vrai que c'est surtout dans l'Eucharistie et qu'il y a une personne à Christi lorsque le prêtre prononce les phrases de la consécration, c'est évidemment là le Christ qui se sert de sa voix pour accomplir le miracle. La voix du prêtre, de son intelligence, il accomplit le miracle. Ce n'est pas le prêtre qui l'accomplit. Dans le cadre de la confession, évidemment, c'est un petit peu différent, mais il est vrai que c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas là une personne à Christi totale, mais c'est plutôt que le prêtre, comme instrument, traduit le pardon que Dieu donne, car seul Dieu peut pardonner les péchés. On le voit bien dans l'Évangile, lorsque le Christ dit à ceux qui va guérir, tes péchés te sont remis, les pharisiens disent, qui cet homme qui remet les péchés? C'est bien l'affirmation de la divinité. Donc, dans le sacrement lui-même, dans l'absolution, qui est donnée par le prêtre, c'est évident que là, le prêtre n'est que l'instrument du Christ, et c'est le pardon de Dieu qui est accordé. Mais c'est, quand vous y pensez, quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai dit combien la liturgie, le fait, est importante pour nous qui sommes, encore une fois, dans la vie terrestre, dans la vie du corps, la vie de l'âme. Mais là, moi, j'ai la certitude d'être pardonné. Parce qu'il y a l'absolution, il y a le geste du prêtre, il y a la liturgie de la confession. Et je me rappelle avoir une discussion comme ça avec une maman professeure, mais très aimable, mais c'était au cours d'un repas mondain, tout le monde. Et tout d'un coup, je me suis fait attaquer, gentiment, en disant, oui, vous les cathos, vous croyez, vos histoires confession, c'est sordide, c'est bien pour les prêtres, j'ai eu le coup de vous. Parce qu'en général, quand on a confessé 4 heures de rang, on sort complètement lessivé. Je pense au curé Lars, il en parle aussi dans ses sermons, et il sortait de là, mais mort. Et c'est vrai, je le constate. Mais je dis surtout, vous les protestants, vous êtes sûrs d'être pardonnés? À ça, il n'y avait pas pensé. Il dit, vous avez la certitude physique d'être pardonné? Ou est-ce que c'est vous qui vous dites pardonner? Et là, tu es obligé de me répondre qu'elle ne savait pas. Elle me dit, oh, je sais. Vous pensez que vous êtes pardonné parce que vous pensez. Moi, le prêtre, j'ai une absolution qui vient de là-haut, qui est objective. Alors, les cathos, on est pas mal quand même. Vous voyez, c'est le bon Dieu, il montre bien. Et je crois, si vous êtes à travers cette liturgie de la pénitence, on voit bien la réalité de l'incarnation du Christ. Et on comprend mieux pourquoi il a voulu se faire homme. Des explications, c'est pas la seule. Mais il a voulu se faire homme, parce que comme ça, nous avons un grand prêtre, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, qui a compris notre humanité. Il l'a tellement bien compris qu'il nous donne humainement tout ce qu'il nous faut pour être sûr que surnaturellement nous sommes sauvés. C'est quand même génial. Et il y a cette absolution que le prêtre donne, là, vous sentez, ouais, je suis, c'est pas simplement subjectif, c'est d'abord objectif. Le pardon de Dieu a été donné. Et qui dit pardon de Dieu, vous pouvez remarquer, dit non seulement pardon, mais oublie. Dieu oublie. Nous, on voudrait bien oublier. Mais c'est pas toujours facile. Et c'est la blague de... Je renvoie une dame dans une immense église qui est agenouillée et qui dit oui mon Dieu, bon, donc, je pardonne, mais j'ai tous les noms avec moi. C'est pas trop génial, c'est ça. Et nous, exercer le pardon, c'est pas facile. Ce que je dis souvent, c'est que le pardon se fait. C'est là où mon Dieu aussi est très, très humain, d'une certaine manière. Lui, il a la perfection pour pardonner dans ce monde. Nous, il faut laisser le pardon se construire dans notre âme. Mais il faut avoir cet accueil du pardon. Parce que nous devons pardonner à quelqu'un. Pas s'affoler si ça ne se fait pas tout de suite. Mais il faut laisser le temps faire son œuvre, il faut laisser la grâce surtout travailler la question. Ce qui fait que petit à petit, on acquiert une hauteur de vue, si vous voulez, qui est la vue de Dieu tout simplement. On dit, enfin, je suis complètement idiot, quoi. Le pauvre gars, il m'a fait une crasse. Bon, ouais, voilà. Ça part, j'oublie. Mais la première chose du pardon, voilà, c'est ça. C'est de laisser se construire petit à petit, se laisser s'installer dans notre âme. Ça fait partie aussi de ça, de la liturgie, de la pénitence. Et la pénitence elle-même que le prêtre donne, ne la prenez pas à la légère. Elle est votre participation à la liturgie de la pénitence, telle que Dieu la veut. Alors évidemment, les pénitences sont aussi variées qu'il y a de prêtres. Hein. Il y a les durs de durs qui vont vous envoyer dans un cimetière à minuit dire un chapelet au milieu des tombes. Il y a les plus doux, vous savez Marie, bon, peu importe. Ce qui importe, c'est de rentrer dans l'esprit de la pénitence avec que le prêtre vous la donne. Et je le répète, au fond, c'est surtout voilà, cette participation à la liturgie. Comme vous participez à la messe, vous participez à la pénitence et vous montrez effectivement à Dieu l'actualité de votre contrition. C'est pour ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas une question de douceur ou de dureté. Je crois parce que tout simplement, même avec les pires des pénitences, nous ne rembourserons jamais notre dette vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu qui la rembourse par la croix. Nous n'avons jamais les moyens. Alors, vous pouvez faire un pèlerinage à genoux jusqu'à Jérusalem si vous voulez. Ce ne sera pas à la taille de l'infini de Dieu. Et, par contre, l'obéissance à la pénitence, là, la voilà, ce que Dieu désire. Parce que là, c'est répondre à sa miséricorde et à sa justice, tout simplement par l'acte d'obéissance qui fait que on ne fait pas que ce que l'on veut. Alors, même si la pénitence me paraît ridicule, le fait de l'obéir lui donne toute sa valeur. Et si elle est importante, le fait d'obéir fait que ça sera un peu dur, mais c'est dans l'acte d'obéissance que j'insiste beaucoup. Parce que le Christ est mort par obéissance, qu'il est allé par obéissance, de ce magnifique texte de saint Paul, hein, il est allé jusqu'à la mort, ou soit une mortelle. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Hein. Eh bien, c'est ça, c'est l'obéissance du Christ. Donc, je crois que le sacrement de pénitence, la liturgie de pénitence, eh bien, nous permet de rentrer dans cette obéissance du Christ qui façonne l'âme. À partir de l'instant où il y a l'obéissance, je crois que là, tout est gagné. Ce qui pervertit le cœur de l'homme, c'est le refus de l'obéissance, ou l'interprétation de l'obéissance, ou la manière à soi de voir l'obéissance. Et, ça pourrit l'âme. Mais s'il y a cette obéissance, par exemple, ce sacrement, tout simple, tout humble, bon, on m'a dit de faire ça, je le fais. Je le fais dans cet esprit. C'est là où on retrouve, vous voyez, l'esprit et la lettre. Il y a les deux dans cette liturgie de la pénitence. L'esprit est évidemment complètement important, essentiel. Mais encore une fois, ce qui est de mon esprit, il faut que je le traduise par des actes. Et c'est la raison pour laquelle c'est une petite liturgie, je vous le disais tout à l'heure, c'est une liturgie quand même qui nous est donnée par l'Église et à laquelle nous participons. Et qui me permet d'avoir donné la conclusion sur l'Église, j'espère que vous aurez comme ça envie de vous confesser, de plus en plus, mais surtout de rentrer dans cet esprit de pénitence. Parce que ce n'est pas tout la confession, il y a l'esprit de pénitence. Comme il y a l'esprit de prière dont je vous parlais tout à l'heure. Là, il y a l'esprit de pénitence. non pas de prendre une tête absolument épouvantable parce qu'on fait pénitence, vous savez ce que le Christ en pense, il le dit dans l'Évangile, mais parce que nous sommes constamment en train de profiter des circonstances dans lesquelles nous sommes pour sortir de nous-mêmes, nous abandonner nous-mêmes, laisser Dieu prendre notre âme. C'est ça l'esprit de pénitence. C'est se refuser soi-même, refuser sa valeur propre, pour n'aller chercher notre valeur que dans la valeur de Dieu. Et donc, c'est là où les circonstances, tout nous aide à rentrer petit à petit dans cette volonté de Dieu, et encore une fois, de laisser Dieu nous construire complètement. Et en conclusion, c'est simple. Ce que nous verrons tout à l'heure dans l'Eucharistie, c'est-à-dire à 13h30, j'essaierai de vous montrer en tout cas que plus nous sommes proches du cœur du Christ dans l'Eucharistie, plus nous laissons le Christ prendre notre cœur, plus nous préparons la deuxième béatitude. L'Eucharistie est un prémisse de la vision béatifique. Elle est une préparation, plus qu'une préparation, un commencement de réalisation dans l'âme qui se laisse prendre par l'Eucharistie. Et ça sera pour tout à l'heure, vous voyez combien la pénitence est importante. Ceci étant, nous sommes à presque à 12h30. Vous avez 5 minutes de plus en plus pour déjeuner. Vous c'est de 12h30 à 13h15. Je lis, repas, temps libre en silence. Thank you.